Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous donnons la parole à des hommes et à des femmes engagés pour la santé des populations les plus vulnérables. Et leurs actions, leurs compétences, ils les ont mises au service d'une association qui célèbre cette année ses 30 ans. Une ONG qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir. Humanitaire, chirurgie, solidarité, ces trois termes permettent d'en cerner les contours des actions, des opérations, des échanges et des chantiers internationaux qui, sur trois décennies, se sont déclinés dans 26 pays. Des initiatives multiples, des projets montés au gré de rencontres, des besoins sanitaires, de l'urgence liée à l'actualité, missions chirurgicales, partage de savoir-faire, formation des soignants, accueil des enfants en situation d'impasse thérapeutique. Mozambique, Afghanistan, Cambodge, création d'infrastructures adaptées aux besoins. En remontant l'histoire de ces 30 années avec la Chaîne de l'Espoir, on prend la mesure des inégalités en termes d'accès aux soins, au plateau technique et au personnel formé, y compris pour des enfants, pour des petits malades, pour lesquels la chirurgie est devenue vitale. En 30 ans, la Chaîne de l'Espoir a permis à plus de 7 000 de ses patients d'être opérés et donc sauvés, à plus de 230 000 autres personnes d'être prises en charge et à 2 500 soignants d'être formés pour continuer à travailler dans leur pays. Des chiffres pour comprendre l'action très concrète de la Chaîne de l'Espoir, les témoignages des hommes et des femmes qui s'engagent pour la santé des plus vulnérables et donc des enfants. Avec nous en studio, le président de cette ONG, Dr Éric Chesson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien vasculaire. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Sénégal le professeur Amadou Gabriel Sis, qui est déjà en ligne avec nous. Professeur, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital Fann de Dakar. Opérer, organiser, expliquer et accueillir les enfants. On donnera tout à l'heure la parole à Brigitte Cadeau, famille d'accueil à Nantes, qui est donc située dans l'ouest de la France. Et puis, depuis des années, notre reporter Igor Strauss a suivi pour Priorité Santé vos interventions, vos actions. Première chirurgicale, caravane chirurgie mobile, Afghanistan, Mali, Burkina Faso. Nous retrouverons des extraits de ces reportages dans l'émission.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Chesson, vous présidez aujourd'hui la Chaîne de l'Espoir qui a donc été créée voici 30 ans par le professeur Alain Deloche. L'association vient de publier un livre pour comprendre justement cette histoire, des visages, des dates, des rencontres, l'engagement de l'association au service de l'accès aux soins. À titre personnel, vous savez sur combien de missions vous êtes parti ?
Oh là là, là
ça se compte en dizaines.
Ouais, en centaines.
En centaines.
Bah déjà, je peux vous dire, sur Kaboul, j'ai déjà 120 missions.
Oui, donc ça ne se compte plus.
Non, ça ne se compte plus. Et la première mission, étant en mer de Chine, c'était avec le bateau L'Île de Lumière. Et c'était en 79.
Donc ça remonte à très loin. Si vous le voulez bien, on va commencer par la fin de ce bouquin, ce gros bouquin rétrospectif, illustré, que vous avez publié pour raconter l'aventure de cette organisation. Parce qu'il y a pas mal de personnages, de hasards, de moments assez incroyables au cours des trois décennies. Mais à la toute fin du livre, parce que c'est toujours ce qui me fait tirer un petit peu ma larme, qui s'appelle « 30 ans d'espoir », il y a une galerie de portraits en deux temps, dans six pays, des photos d'enfants, leurs prénoms, l'année de l'intervention chirurgicale, et puis, bien plus tard, 19 ans, 10 ans plus tard, quel parcours de vie, quel métier, que font-ils aujourd'hui ? On va dire qu'il y a des enfants, il y a l'opération et il y a l'avenir. C'est ça la Chaîne de l'Espoir ?
Oui, tout à fait, parce que ces interventions chirurgicales, qu'elles soient en chirurgie cardiaque, en chirurgie orthopédique ou chirurgie viscérale, elles redonnent la vie, elles redonnent l'espoir. Et si vous voulez, on a une politique au niveau de la chaîne, et bien sûr, il y a le mot sélection. C'est-à-dire qu'on opère des enfants qui vont retrouver, je dirais, leur courbe de survie normale, qui vont rejouer au foot, qui vont avoir un travail. Et maintenant, 30 ans, donc on voit des enfants qu'on a opérés et maintenant ils sont adultes et c'était extrêmement émouvant.
Leur réussite, c'est la vôtre, soigner pour donner cet avenir, avec aussi, au départ quand même, on va avoir des moments de sourire, mais aussi l'indignation. Ce qui se passe, c'est absolument intolérable. C'est ce dont on parle tous les jours en termes de santé sur la planète. L'injustice en matière de santé et cette lutte, elle reste vraiment d'actualité.
Oui, parce que, si vous voulez, il y a d'abord l'inégalité fondamentale de départ, c'est le lieu de naissance. Selon que vous naissez à Paris, Montpellier, ou Lomé, ou Bamako, je vous assure que les chances ne sont pas identiques. Et puis, il y a l'inégalité liée à la géopolitique actuelle, avec des conflits, avec des situations économiques dramatiques. Et la liste, malheureusement, est très longue.
Docteur Chesson, alors, santé pédiatrique au cœur de vos programmes de la chaîne de l'espoir, mais pas seulement, on va le voir. À titre personnel, votre engagement, vous avez dit 79, mais quand le professeur Deloche a fondé l'organisation, vous l'avez rejoint quand ?
Je l'ai rejoint dès le départ. Nous l'avons fondé ensemble. Nous avions fondé auparavant avec le professeur Deloche, médecin du monde. Oui. Et nous sommes partis car nous avions un tropisme chirurgical. Les médecins du monde étaient partis plus vers le social.
Alors justement, chirurgie, les pathologies cardiaques des enfants, c'était vraiment, l'essence de votre spécialité, d'ailleurs, tout simplement, puisque vous êtes tous les deux chirurgiens et spécialistes en cardiologie. C'est resté l'un des grands axes de vos actions ?
Oui, c'est un grand axe. D'abord parce que la demande est considérable et aussi par la personnalité du professeur Deloche. Mais la chirurgie cardiaque représente grosso modo 20% de nos activités. Il y a l'orthopédie, il y a la chirurgie plastique, la chirurgie viscérale, mais aussi l'anesthésie, la réanimation, ce qui entoure le bloc opératoire.
Et on va comprendre toute l'importance du travail d'équipe. 30 années des chiffres spectaculaires qui illustrent votre travail. Ça témoigne d'ailleurs de cette diversité dont on a parlé. Vous êtes présent aujourd'hui sur quel terrain quand on regarde la carte du monde ?
On est présent sur 26 pays et malheureusement, mais on le comprend, dans la liste de ces 26 pays, il y a tous les pays actuellement qui sont à la une de notre quotidien, que ce soit l'Ukraine, le Liban, le Mali, le Burkina,
et donc... Et l'Afghanistan, vous connaissez bien, on l'a cité tout à l'heure.
Et bien sûr l'Afghanistan, d'où je reviens. C'est une grande difficulté compte tenu de cette géopolitique extrêmement difficile et dangereuse actuellement.
Tendue et conflictuelle. Une illustration tout de suite, on part pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et en ligne avec nous, professeur Amadou Gabriel Cisse, bonjour.
Bonjour Caroline.
Professeur chirurgien cardiaque à l'hôpital de Fan à Dakar. Est-ce qu'on peut commencer justement par le début ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, comment vous êtes entré en contact avec la chaîne de l'espoir ? C'était dans quel cadre ?
C'était dans le cadre des premières missions de chirurgie cardiaque pédiatrique à Dakar en 1997. Donc moi, j'étais jeune interne et c'est mon ancien patron, le professeur Mohamed Ndiaye, qui les avait reçus à Dakar pour une mission de chirurgie cardiaque pédiatrique.
Ça veut dire qu'il y a eu aussi bien le partage de savoir, le partage de compétences. Est-ce que vous vous êtes formé avec la chaîne de l'espoir ?
On est beaucoup formé. Ils nous ont accompagnés pendant plus d'une vingtaine d'années, sous forme d'abord de mission, mais sous forme de formation aussi pour les équipes paramédicales. Et ils ont apporté du matériel, du consommable, nous ont aidé à construire des équipes.
À construire, y compris en dur, y compris un bâtiment.
Ah oui, en bâtiment, en équipement biomédical, en fourniture de consommables et en accompagnement pour des formations.
Et quand on dit fourniture de consommables, c'est loin d'être anecdotique, parce qu'on sait que dans nombreux contextes, si on a par exemple un appareil d'imagerie, ben, quand on n'a pas les films, ça bloque, et quand on a des patients, quand on n'a pas la tubulure, ça bloque aussi. Donc il faut aller vraiment de A à Z. On comprend aussi toute l'importance de l'équipe qui est formée, parce qu'on ne forme pas uniquement les spécialistes, les experts. Tout le monde compte quand on opère. Ça va aussi bien de l'aide-soignante, de l'infirmière, toutes les personnes qui sont autour du bloc.
Absolument. La chaîne a instauré une formation pour tout ce qui tourne autour du bloc, même le support en termes de logistique, en termes de techniciens, d'ingénieurs biomédicaux. Et c'est cet apport qui a permis en fait, de former l'équipe à Dakar et de la rendre complètement autonome.
Pour qu'il n'y ait aucun chaînon manquant d'un point de vue financier. Comment est-ce que ça se passe pour les familles dont l'enfant présente, par exemple, une insuffisance mitrale, une malformation cardiaque de naissance et qui va être opérée par vos soins? Comment ça se passe? C'est quoi le déroulé?
Le déroulé, c'est que l'enfant est vu par les différents spécialistes, c'est-à-dire le cardiologue, l'anesthésiste, le chirurgien. Mais là également, la chaîne intervient à un niveau très important. Parce que nous sommes avec des familles très démunies. La chaîne de l'espoir a mis en place un fonds de soutien financier qui permet de financer ces interventions d'enfants démunis.
Le docteur Éric Chesson souhaite intervenir, je vous en prie docteur.
Oui, d'abord je voudrais saluer mon ami Gabriel et souligner le travail extraordinaire. Et maintenant, le Sénégal, le centre de chirurgie cardiaque est un hub pour toute la sous-région. Et grâce à eux, on continue à opérer dans notre centre au Mali, puisque vous savez que nous ne pouvons plus y aller. Ils forment également nos amis du Burkina. Donc, à travers Gabriel Cisse et son équipe, c'est l'ensemble de la sous-région sur lequel on peut envoyer des enfants, mais aussi envoyer les futurs intervenants et les futurs chirurgiens de la sous-région.
C'est tout le sens de cette collaboration Sud-Sud dont on va parler. Vous formez donc les autres dans d'autres pays, professeur. On va revenir en arrière, on va aller sur une autre destination. Janvier 2021, témoignage, portrait, reportage d'Igor Strauss. On part pour le Burkina Faso, où cette année-là, pour la première fois dans l'histoire du pays, des enfants victimes de malformations cardiaques avaient bénéficié d'une chirurgie à cœur ouvert. Ça se passait donc dans l'enceinte du CHU Tengandogo de Ouaga. Igor Strauss, sur place, avait rencontré, juste avant son opération, Isaac, à l'époque 5 ans, sa maman, accompagnée du cardiologue, le docteur Lassina Konaté.
Isaac, bonjour.
Bonjour.
Comment tu te sens? Comment ça va?
Ça va très bien.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Isaac?
J'ai un peu la toux et j'ai la fièvre un peu.
Et est-ce que tu peux faire du sport, Isaac?
Non. Quand je fais du sport, je joue au ballon et mon cœur fait boum et ça s'arrête toujours.
Ah, ton cœur, il fait boum et puis s'arrête d'un coup.
Ça te dérange pas?
Non.
Tu n'as pas de problème quand tu veux courir? Tu n'as pas de problème pour respirer?
Non.
C'est vrai ça?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes sa maman?
Oui.
Alors, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes rendu compte qu'Isaac avait un problème au cœur? Qu'est-ce que vous avez fait au début?
Au début, il s'évanouissait. On faisait les vaccins 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne comprenait pas. Après, il y avait les bronchites, angine à répétition accompagnée de fièvre fréquemment. Dès qu'on arrêtait le traitement, ça se répétait, on ne comprenait pas. Après, on nous a dit que c'était l'asthme, il est allergique à la poussière et tout. Et après, on est parti encore voir un spécialiste. Et c'est suite à ça qu'on a découvert qu'il avait une CIA. Une communication interauriculaire.
Et pendant les 3 premières années, vous ne saviez pas?
Non.
Dans quel état d'esprit vous étiez-vous?
On était désespérés, bien sûr. On est parti même prendre des racines.
Puisque il y avait vous avez vu des tradis?
Voilà, des tradis praticiens, prendre les racines pour le traiter. Après, quand on a découvert, on s'est rendu compte qu'on lui faisait du mal, en fait, en prenant les racines pour le traiter et tout. Voilà.
Est-ce que pendant toutes ces années, vous avez pensé à la mort à un moment?
Bien sûr. En fait, j'étais préparée psychologiquement à ça. En fait, je m'occupais de lui. Mais bon, il n'y avait pas d'espoir parce que c'est du concret. Il faut vraiment de l'argent. 21 millions pour évacuer un enfant en France, pour quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, on s'était préparé psychologiquement à une mort. Voilà. C'est tout.
Alors, là, il va bientôt être opéré.
Oui.
Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Je suis anxieuse, mais soulagée. J'ai mon chapelet là avec moi, dans mon sac. Je vais prier jusqu'à ce qu'il sorte. C'est tout.
Ah,
Archives Priorité Santé, janvier 2021, Igor Strauss à Ouagadougou, professeur Amadou Gabriel 6. On vous retrouve à Dakar. Hein. Cette réalité, elle rejoint ce que vous vivez au Sénégal, des enfants pour qui l'opération constitue, ni plus ni moins, une urgence vitale.
Absolument, c'est une urgence vitale. Et là, devant nous, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ces enfants constituent un véritable handicap pour la famille. Toutes les ressources financières de la famille, c'est déjà des familles pauvres, sont orientées vers les soins de cet enfant-là. Il ne va pas à l'école, il n'a pas d'avenir, il continue à être un poids pour sa famille et finalement finit par mourir si on ne fait pas quelque chose.
Et c'est vrai que ça va avoir aussi une influence sur la fratrie qui parfois va être privée d'éducation parce que tout l'argent finalement va, on le comprend, à cette urgence, à ce petit qui va mal. Aujourd'hui, les enfants que vous opérez à Dakar, ils viennent d'où dans le cadre de ces interventions en chirurgie cardiaque notamment?
Ils viennent de l'intérieur du pays, de Dakar, de la banlieue de Dakar, mais nous recevons également tous les enfants de la sous-région. Donc la Gambie, Guinée-Bissau, Niger, Mali, Burkina Faso, Abidjan et même du Congo et du Libéria.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure le docteur Eric Chesson parlait d'un véritable hub chirurgical. Il y a donc cette partie opération, il y a aussi tout ce savoir-faire qui est désormais transmis. Vous avez appris des autres et maintenant vous êtes un petit peu dans le rôle suivant, vous apprenez aux autres. Coopération Sud-Sud qui s'est mise en place, ça se passe comment justement cette transmission des savoirs?
Cette coopération Sud-Sud, c'est une idée qui vient du professeur Alain Delos, fondateur de la chaîne de l'espoir. Donc nous avons bénéficié d'une formation et il fallait la transmettre aux autres équipes africaines. Et c'est cette chaîne de transmission qui fait que l'action est en fait très très belle. Parce qu'aujourd'hui, des enfants restent au Burkina, sont opérés par des Burkinabés au Mali. Nous continuons à les accompagner sur des pathologies beaucoup plus complexes et sur des pathologies très complexes, on fait transférer les enfants à Dakar.
Forcément, on comprend quand on a entendu ce reportage, hein, la maman à côté, c'est absolument essentiel. Quand les enfants sont opérés sur place, ça veut dire presque plus d'évacuation sanitaire, ça veut dire aussi l'accompagnement familial. Et c'est vrai que pour tout ça, c'est essentiel.
Absolument.
Vous vouliez intervenir, docteur Chesson, la présence des parents, oui, en pédiatrie, c'est essentiel.
Oui, je voudrais profiter de ce moment à votre antenne. C'est avec Gabriel, qui est très discret sur la qualité incroyable du travail qu'il fait au Sénégal, mais sur toute la sous-région. On a un projet, c'est-à-dire que notre problème avec Gabriel, tout de suite, c'est la liste d'attente. La liste d'attente de tous les enfants, mais aussi les adultes. Et donc, on a un projet d'agrandissement de la structure, parce qu'elle a deux salles d'opération, ce n'est pas suffisant. Et donc, on a ensemble élaboré ce projet, et comme à chaque fois, eh ben, on va partir avec ce projet, on va aller voir un peu tout le monde, de l'Agence française de développement aux mécènes. Et donc, comme j'ai la chance d'être à RFI, allez-y. Je lance cet appel, aidez-nous.
Aidez-nous. En tout cas, on va entendre à plusieurs reprises dans cette émission parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours, il y a plusieurs projets qu'il faut continuer de faire vivre. On vous remercie en tout cas beaucoup pour cet échange, professeur Amadou Gabriel 6, et très très bonne journée à Dakar. On entend bien toute la diversité de ces programmes, docteur Chesson, justement cette construction de ce nouveau service. Il y a effectivement des structures qui ont été sorties du sol de A à Z et sur plusieurs continents.
Oui, en effet, déjà 9 projets hospitaliers, je ne vais pas vous les énumérer. Non. Le dernier, je l'ai inauguré en juin à Tananarive, à Madagascar. Et le prochain, qui est fini, mais la géopolitique actuellement est très compliquée, c'est au Sinjar, en Irak, lieu de génocide des Yézidis. Nous avons construit un hôpital avec l'aide du centre de crise du Quai d'Orsay, qui est maintenant terminé et qui va être un élément probablement du retour de tous les réfugiés qui ont vécu l'enfer. Ce sera, pour répondre précisément à votre question, le 9e projet hospitalier de la chaîne de l'espoir.
Après le Mozambique, après le Cambodge, après Kaboul, on va en reparler en deuxième partie d'émission, docteur Eric Chesson. On va vous retrouver. On va se retrouver juste après ce titre de Dobé Niaoré. Ça s'intitule tout simplement « Espoir dans Priorité Santé ».
Et, et. Ouh, ça.
Priorité santé sur RFI. Les 30 ans de la chaîne de l'espoir, ONG présente dans 26 pays pour opérer des enfants, former des soignants, bâtir et équiper des hôpitaux, toujours en compagnie du président de cette association, Dr Éric Chesson, 3 décennies au service de la santé pour tous, partout. Dans ce livre, 30 ans d'espoir que l'on feuillette avec vous, s'expriment dans leur diversité. C'est les ceux qui ont écrit, construit ces projets et qui illustrent justement cette dimension d'équipe, des profils très variés. Ça va de l'infirmière au responsable éducatif, de l'anesthésiste au bénévole, avec même des rencontres, plusieurs figures, des femmes qui vous ont soutenues, marraines ou personnalités même du spectacle, qui ont accompagné certaines initiatives.
Bien sûr, et je ne peux pas m'empêcher de vous dire l'hôpital de Kaboul, cette extraordinaire réalisation, l'hôpital français de Kaboul. S'il n'y avait pas eu Marine Jacquemin et Muriel Robin, cet hôpital n'aurait pas vu le jour de la même façon.
Je décrypte juste pour nos auditeurs à l'étranger. Oui. Marine Jacquemin, c'est une reporter de guerre de la chaîne de télé TF1. Muriel Robin, c'est une grande humoriste et comédienne française qui est connue très certainement. Et en tout cas, ça a été une rencontre, un hasard. L'une qui travaille sur place et l'autre qui regarde ce qu'on apprend en lisant ce livre, qui regarde ce reportage et qui dit on peut pas rester sans rien faire.
Oui, et c'était juste après le 11 septembre 2001, Et il y a eu un mouvement de générosité de l'ensemble des Français qui ont fait des dons, 10, 20 euros, avec Muriel et Marine qui ont porté ça à bras-le-corps parce qu'elles ont beaucoup donné pour cet hôpital qui maintenant est un hôpital considérable. Et on a construit l'hôpital pour enfants, puis la maternité. Et maternité gynéco-obstétrique en Afghanistan, ça a une vraie signification compte tenu de la situation d'enfer que vivent les femmes en Afghanistan.
Ça avait déjà une signification à l'époque, encore aujourd'hui, davantage. Précisément, ce projet de Kaboul qui occupe une bonne partie de votre temps et toutes les inquiétudes qui vont avec, parce qu'il faut maintenir les financements justement pour que ça continue d'exister et de s'occuper de ces femmes qui en ont aujourd'hui plus que jamais dans ce climat de ségrégation sexuelle tellement besoin. Illustration justement, c'était encore Igor Strauss, hein, toujours lui, qui s'était rendu sur place en mai 2021. Reportage long format. Il avait rencontré à Kaboul précisément le professeur Najibul Abina. C'était le tout premier chirurgien cardiaque afghan qui aujourd'hui exerce à Toulouse dans l'ouest de la France, mais il reste en contact étroit avec son pays. Professeur Bina qui évoquait alors au micro de RFI, en marge d'une consultation, l'intensité des besoins sur place.
Ben là, on est dans la salle de consultation. On commence la journée avec la première consultation de ce bébé.
Donc c'est un très jeune enfant.
Oui, en fait, ça c'est les jours d'enfants qu'on appelle les enfants bleus. Donc il a une pathologie dans le cœur qui signifie quatre malformations en même temps.
Et on l'explique par quoi, notamment par la consanguinité, notamment, c'est ça?
Oui, chez eux c'est la consanguinité parce que je suis cet enfant depuis sa naissance.
Et ça, c'est fréquent?
Oui. Bon, il ne va pas bien.
Il ne va pas bien?
Oui, il ne va pas bien. Donc là, c'est
le moment. Vous voyez, ses mains et ses pieds étaient bleus, effectivement.
Oui, et c'est bleu, donc il manque d'oxygène. 78% de saturation, c'est pas bon.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire, normalement, on a en plus de 95, 96. Alors que là, il est à 78%, donc... Sa maman raconte que ce n'est pas le même enfant qu'il y a 2-3 mois. Il pleure tout le temps, il ne mange pas. Donc là, on va intervenir, il faut l'opérer. C'est une intervention à corps ouvert. Mais il faut faire, maintenant on va faire des bilans, on va passer un scanner pour voir la taille des artères, des poumons, tout ça. Et après, on va décider.
On a le sentiment que vous êtes toujours dans l'urgence, finalement.
Oui.
Ça, c'est une journée normale ou c'est une
oui,
journée
c'est
calme?
Une journée normale. C'est une journée normale, comme tous les jours.
Ça n'arrête pas, quoi.
Non, ça n'arrête pas.
Qu'est-ce que ça révèle de l'état du pays, finalement, de l'état sanitaire du pays?
La guerre qui amène la pauvreté et que, voilà, finalement, c'est ça. On a essayé de faire quelque chose sur le secteur de santé après le départ des talibans. Pendant 20 ans, avec toutes les aides qui sont arrivées jusqu'ici, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose.
Il y a beaucoup de cardiologues dans le pays?
Non, 103.
Dans tout le pays?
Dans tout le pays.
Et donc deux ici? Et ce qui veut dire que dans les autres hôpitaux, il y en a ou pas?
Il n'y en a pas.
Et les chirurgiens cardiaques comme vous, dans les autres hôpitaux, il y en a aussi ou pas?
Non. Ici, c'est connu comme l'hôpital français de Kaboul. Ouais, c'est le seul endroit qui arrive à faire des interventions, mais très, très, très compliquées à haut niveau.
Reportage d'Igor Strauss, mai 2021, Kaboul, archives priorité santé. Docteur Éric Chesson, vous rendez régulièrement sur place. Situation, on l'a dit aujourd'hui, encore plus critique par rapport à ce que décrivait à l'époque votre confrère, hein, le professeur Bina.
Oui, tout à fait. L'Afghanistan, c'est le cumul des malheurs. Bien sûr, situation économique épouvantable. Et puis, depuis le 15 août 2021, la reprise de pouvoir par les talibans. Et puis, depuis, une litanie de décrets limitant l'espace de vie, mais surtout axé sur les femmes. Maintenant, en un mot, c'est une prison à ciel ouvert. elles étaient invisibles. Il va les rendre silencieuses, puisque même elles ne peuvent plus parler entre elles. Elles doivent chuchoter, elles ne peuvent plus lire de la poésie, elles ne peuvent plus chanter. C'est unique au monde. Ça ne s'est vu nulle part ailleurs, cette espèce de féminicide. Je tiens à dire que l'hôpital français continue, il continuera malgré les difficultés, avec le soutien du centre de crise du Quai d'Orsay.
Alors on a entendu tout à l'heure au sujet des enfants malades, tenter au maximum de les opérer dans le pays d'origine ou dans la région, mais dans certains cas le plateau technique ne le permet pas. Alors, docteur Éric Chesson, il y a encore des évacuations, des opérations loin de la maison. Comment est-ce qu'on décide si un enfant va partir, va justement pouvoir bénéficier de cette évacuation sanitaire et opération à l'étranger, parfois en France ?
Si vous voulez, il y a je dirais, un comité de sélection, excusez-moi du mot, mais c'est la réalité. Et on essaye, dans le maximum de cas, de les opérer sur place. Mmh. Lorsque nous avons des hôpitaux ou lorsqu'on peut les transférer, et on a vu tout à l'heure, par exemple, à Dakar. Pourquoi ? Parce que faire venir un enfant en France, et c'est compréhensible, mais c'est une aberration médicale, humaine, et financière. Donc, il y a encore quelques cas que nous ramenons en France du fait de la complexité des pathologies. Mais au maximum, nous essayons de les opérer dans ce qu'on appelle les hubs, que ce soit à Dakar, au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est une inversion des choses. Et puis en plus, je tiens à le dire, la France, c'est un pays qui devient relativement inaccessible. C'est extrêmement difficile d'avoir des visas. Et plus ça va, plus ce qui est loin fait peur. Et donc, ça devient très difficile. Mais heureusement, nous avons encore quelques places et nous avons ces merveilleuses familles d'accueil qui permettent de les accueillir.
Et vous me permettez de faire le lien, justement, parce qu'on a l'une de ces représentantes de ces familles d'accueil en ligne avec nous. C'est vous, Brigitte Cadeau, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors, à chaque fois, je pose la même question. Dans quelles circonstances est-ce que votre chemin a croisé celui de la chaîne de l'espoir ?
C'était pendant mon activité professionnelle. J'ai été amenée à rencontrer une famille qui s'était engagée auprès d'une association similaire. Ce n'était pas la chaîne de l'espoir. Donc, j'avais admiré, et je m'étais dit qu'au moment de la retraite, encore un petit peu jeune, ça serait peut-être le moment de contribuer à sauver quelques enfants si je peux.
Mettre votre énergie au service des autres, précisément.
Voilà, c'est ça.
Le premier enfant, c'était quand ?
C'était en 2021.
2021.
Avec une petite fille de 2 ans et demi. Mmh. Ensuite, en 2022, même genre de petite fille, 2 ans et demi. Et là, il y a 2-3 mois, un petit garçon de 12 ans.
Vous avez appris à prendre vos marques en quelque sorte sur l'organisation, sur la relation, sur l'investissement affectif. Comment ça se passe ?
Oui, bah, de toute façon, on est là, on est là pour remplacer les parents. Alors, de toute façon, on essaye d'être bienveillant, d'être patient. Bon, c'est pas... C'est difficile avec les petites 2 ans et demi parce qu'il y a un déracinement énorme. Ils ne parlent pas en plus, ils ne comprennent pas le français. On est blanc. Il y a tout un cas de beaucoup de problèmes.
Donc mais on arrive dans un cadre complètement différent. Ils vous posent par exemple des fois les petits des questions qui peuvent un petit peu vous mettre mal à l'aise parce que c'est vrai qu'il y a un tel décalage entre les conditions de vie au pays, en famille et chez vous. J'imagine que là, c'est un petit peu un plongeon dans un grand bain.
Oui, ceux de 2 ans et demi, non. Mmh. Non, ils sont même... Ça va. Il y a pas de... Ils ne se rendent pas compte, je crois, de la différence de vie. Par contre, celui de 12 ans, oui. Mmh. Il voit tout le modernisme, les douches qui durent un temps fou, enfin bon, des petites choses comme ça qui ne sont pas très graves. Mais oui, c'est complètement un changement. Par contre, c'est vrai que le dernier parlait français, ça c'est un plus, c'est énorme. Et on pouvait correspondre aussi avec les parents, ce qui fait que la relation, ça a été très facile.
La relation avec les parents, précisément. On va vous retrouver, Brigitte Cadeau, vous restez en ligne s'il vous plaît. Un témoignage tout de suite, on part au Bénin.
– RFI à Cotonou, 90 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Patrice. Patrice, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Patrice, quand vous avez lu sur les réseaux sociaux qu'on consacrait une émission à la chaîne de l'espoir, Patrice, vous avez joint Priorité Santé parce que vous avez envie de témoigner, parce que votre petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui, il a pu être opéré grâce à cette association. Expliquez-nous quel était le problème de santé pour ce petit garçon. Il s'appelle comment déjà ?
Il s'appelle Lionel Bedavi.
Alors Lionel, il avait quoi comme problème de santé, s'il vous plaît ?
Bon, je vous fais un petit résumé d'abord de tout ce qui s'est passé avant que le diagnostic ait été fait.
Oui, allez-y.
Juste après sa naissance, le 31 octobre 2021, nous avons constaté que Lionel ne grandit pas. Il est chétif, il ne marche pas quand bien même qu'il a l'âge de marcher. Mmh. Et ce qui nous a amenés à l'hôpital pour des consultations en consultation, et c'est après que le diagnostic a été fait et qu'il révèle que Lionel a le CV, communication interventriculaire, oui, et que cela ne peut pas être opéré au Bénin. Mmh. Et ce qui nous a amené à contacter le docteur traitant à CHU Cotonou, et c'est ainsi que ce dossier a été monté par ce docteur. Mmh. Vu la gravité de ce mal, le dossier est accepté par la chaîne de l'espoir.
Ouais. Et donc, c'est à quel âge que le petit est parti ? Il avait 2 ans ?
Le petit n'avait pas 2 ans. Le petit avait 1 an, 8 mois.
1 an et 8 mois. Et combien de temps a duré la séparation ?
Le temps de séparation de sa naissance avec l'opération,
ouais,
au palais.
Oui, non, le temps qu'il est venu en France, le temps d'être opéré.
Oui, il a passé moins de 3 mois, 2 mois et demi en France.
Alors, la question la plus importante, hein, celle qu'attendent, j'imagine, tous les auditeurs et les auditrices, comment il va aujourd'hui, Lionel ?
Lionel va très, très, très bien.
Ouais.
Très, très bien même.
Très bien même.
À son retour au Bénin, ouais, tout le monde ne le reconnaît plus. Il a les cheveux des blancs, il se comporte comme les blancs, il est à l'aise. Moi, je ne le reconnais pas, c'est lui-même qui m'a reconnu.
Et il court partout, j'imagine, maintenant. C'est plutôt l'inverse, c'est un petit peu lui qui doit vous mener la vie impossible.
Pardon ?
J'imagine qu'aujourd'hui, il court partout, il fait un petit peu le fou, alors qu'avant, il avait comme justement cette grande fragilité. Là aussi, vous avez découvert un nouvel enfant.
C'est un nouvel enfant que nous avons découvert.
Ouais.
Surtout pour l'entourage, c'est un nouvel enfant que nous avons découvert. Actuellement, les gens ne le reconnaissent plus.
Comment ça se passe avec la famille d'accueil ? Est-ce que vous avez gardé le contact ?
La famille d'accueil a été très bonne, si bien qu'après l'opération, Lionel ne voulait pas même quitter la famille d'accueil. À l'aéroport, il ne voulait pas les quitter.
Ouais.
Difficilement, on s'est quitté. Mmh. Et par WhatsApp, on se communique. Et Lionel a fêté son 2e anniversaire en France, avec une joie, ensemble, à son retour au Bénin aussi. On a fêté son anniversaire le 31 octobre passé, avec sa famille d'accueil. C'était vraiment joli à voir.
Ça veut dire quoi ? Par écran interposé, vous étiez sur WhatsApp et vous pouviez justement voir quand il a soufflé la bougie, c'est ça ?
Exactement. Mmh. Exactement. Quand il a soufflé la bougie, on a tout vu, comment ils ont soufflé, comment ils ont chanté, comment Lionel se porte, comment ses amis l'ont entouré, comment il chante, on a tout vu.
Et ça, c'est du concret comme réussite. On peut dire que c'était une belle chance de rencontrer justement cette association pour votre petit garçon et pour toute la famille.
Vraiment, c'est une grande chance et je remercie beaucoup l'initiateur de cette association qu'il continue d'œuvrer dans ce sens que les enfants vulnérables soient sauvés de cette maladie et autres.
Ça fait du bien de vous entendre, Patrice, parce que je peux vous dire, on est intercalé entre 2 journaux où les nouvelles, elles ne font pas toujours chaud au cœur. Entendre votre témoignage, en tout cas, ça remonte sacrément le moral. Merci beaucoup. On vous retrouve à Nantes, Brigitte Cadeau. Ce que vous avez entendu là avec le témoignage de Patrice, j'imagine, ça illustre tout à fait votre quotidien.
Exactement. C'est exactement les symptômes, le rapport qu'on a avec les parents, c'est exactement la même chose. On a même la première petite fille qu'on a eue, ils l'ont, enfin, je pense pas qu'ils l'ont, ils l'appellent maintenant, ça s'appelle Mamadi de son prénom, Mamadi Brigitte. Ils ont mis son prénom. Enfin, quand ils parlent de la petite fille avec nous, c'est toujours Mamadi Brigitte. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance. C'est très, ça fait chaud au cœur.
Ça fait chaud au cœur. Docteur Éric Chesson, vous vouliez intervenir.
Oui, enfin, je trouve ça extrêmement bouleversant. Et moi, je voudrais dire saluer Brigitte et puis surtout saluer ses familles d'accueil. C'est les héros. Mmh. C'est les héros de la chaîne. C'est-à-dire que ça demande un investissement logistique, temporel, humain, absolument incroyable, d'être là en pré, père et post-opératoire. Mmh, c'est-à-dire qu'ils les emmènent en consultation. Mmh. Ils sont là au réveil de l'enfant. Mmh. Et c'est vraiment... c'est extraordinaire, ces familles.
Brigitte Cadeau, j'imagine qu'au niveau émotionnel, c'est pas simple. Hein. Quand il y a un petit enfant qui va avoir une opération de chirurgie cardiaque et qu'on se retrouve dans ce rôle de responsable, véritablement sur un temps court, mais complètement tuteur de la vie de cet enfant, comment est-ce qu'on se sent, hein, pour n'importe quel parent qui a accompagné son enfant à l'hôpital? On sait que c'est pas simple, mais là, quand il doit être opéré du cœur, là, on passe à un niveau supérieur.
Oui, bah, c'est vrai que le fait d'avoir ces enfants, on est vraiment, on prend la place des parents, mais même dans la tête. Mmh. Dans la tête, on y tient pareil qu'à nos propres enfants, enfin, le temps qu'ils soient là. Et non,
on a essayé de faire... Justement, vous dites le temps qu'ils soient là, quand ils partent, c'est quoi? C'est le syndrome du nid vide à chaque fois? Il y a quand même quelque chose d'assez douloureux, malgré tout?
Maintenant, on est des retraités, on est tout seul à la maison. Enfin, il y a les petits-enfants pas loin, tout ça. Mais on a une vie comme quand on est jeune parent, quoi, avec des petits. Et tout d'un coup, ils partent, ça fait un gros vide, oui. Mais bon, on le sait au départ, hein. On a plus de 60 ans, c'est bien qu'on ne peut pas avoir des enfants comme ça à long terme.
Hein. On peut
c'est
bien fini. Imaginer. Vous projetez déjà, Brigitte Cadeau, sur le prochain enfant que vous allez accueillir?
Oui, enfin, ça dépend de la chaîne de l'espoir qu'on admire beaucoup. Hein. Il est en train le docteur Chesson et nous donne des fleurs et tout ça, mais c'est pas... Nous, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps avec les enfants, mais c'est pas nous qui opérons quand même. Hein. Et on a tout le bénéfice après d'avoir des contacts avec cet enfant et tout ça que les autres dans l'ombre n'ont pas. Hein.
Donc c'est l'échange gagnant-gagnant, parce que vous avez l'affection en retour des enfants et la gratitude des familles, c'est ça?
Je trouve que c'est très, très important, ça.
Merci beaucoup.
On gagne des amis.
Vous gagnez des amis de par le monde, ça, c'est très précieux, effectivement. Merci, Brigitte Cadeau, pour votre témoignage. Docteur Chesson, on arrive à la conclusion de notre échange. On a parlé de vos nombreux programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, certains d'entre eux ont dû être remis en question, partiellement, totalement, du fait de certaines situations politiques ou sécuritaires sur la planète? On disait tout à l'heure, effectivement, époque plus que jamais tourmentée. Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser qu'auparavant?
À l'évidence, c'est une époque extrêmement difficile. Je ne vais pas rajouter à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais nous sommes sur des pays où la géopolitique est extrêmement difficile. Il y a des problèmes logistiques pour y aller, des problèmes de visa, des problèmes sécuritaires. Je dois le dire, des problèmes financiers. Mmh. La France est dans une situation un tout petit peu délicate et je ne me mêlerai pas de quoi que ce soit. Mais il y a une aide au développement qui va être réduite de 34%. Mmh. Alors, c'est quoi l'aide au développement? Eh bien, c'est l'aide que la France donne sur beaucoup de pays. Alors, on a cité le Sénégal, on a cité...
des projets d'éducation, sanitaire, de développement,
exactement.
C'est du concret.
Donc, c'est une période très difficile. C'est une période également où les Français ont des problèmes, l'inflation, la difficulté du quotidien. Et la générosité est toujours là, mais elle est difficile. Et c'est vrai... Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien financier. Nous avons besoin aussi de gens qui se mobilisent, des infirmières, des anesthésistes, des chirurgiens, des familles d'accueil. Mais c'est vrai, les finances sont actuellement un gros problème pour beaucoup d'ONG et notamment pour la chaîne de l'espoir actuellement.
Assez rapidement, on a compris tous ces projets qui existent déjà à soutenir. Vous avez des projets de création, d'aller vers une nouvelle structure ou quelque chose, ou pour l'instant on se calme un peu justement à cause de ce contexte?
Justement, nous parlions tout à l'heure avec le professeur Gabriel Sisse. Le projet qu'on voudrait monter assez rapidement, parce que je vous ai parlé de cette liste d'attente, c'est le projet de Dakar, le projet d'agrandissement du centre cardiovasculaire qui est à l'hôpital Fan. Donc c'est un projet que nous portons. Il y en a d'autres, mais si vous me donniez celui que je mets en priorité, je mets celui-ci tout de suite.
Dakar pour l'avenir des opérations chirurgicales sur place. Un grand merci à vous, docteur Éric Chesson, nous avoir expliqué le travail, l'engagement de votre ONG, la chaîne de l'espoir. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, l'adresse de l'organisation, le site sur la page de l'émission, pour mettre aussi des visages sur ce qui vient d'être dit. Et avant de nous dire tout à fait au revoir, le son de la Jamaïque sur RFI, Mortimer et Damian Marley dans Priorité Santé, In My Time.
No, I pray thee, give thanks to give no thanks, no, and such words.
Yeah, yeah. Yeah, yeah, being black has been a crime to the people with no love inside. Some could never tell you why. They hate you like a poison. They shoot us in the street, no apology. Nothing equality for monopoly. It's okay to disagree with my argument. Lost many nights of sleep, it's been troubling. In my time I've heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Yeah. Looking even at my yard, since I am a learned fit dance. I see fellow Africans hugging up the propaganda. Lord, I see discrimination, I see violence. Persecution if they cannot buy a silence. In a system, even freedom have a price. Mind shall be worth it, pay that with a lie. In my time, I heard so many lies. Seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side. Seen us let ourselves down.
With knowledge, spread it. Don't cut, paste and edit. Them say half the story's never been told. I wonder who is going to tell it. Will they package it and sell it? Can we purchase it with credit? And will they break it down in a way that we can get it? If you cannot read nor spell it, you cannot feel nor touch it, you cannot see nor smell it. Such a thin line when you tread it. Some televise a side of life that really is a lie. If you know the truth, you'd be surprised, so don't believe the hype. Meanwhile, the majority a scroll and them a swipe. Them a program where you view, although you think you have a choice. Them a tell you what to do, where to go and who to like. The algorithm start to spike. What if them do it for spite? And them catch you by surprise. Make the world change overnight. Now the planet you call home is one you cannot recognize.
All the wars, all the lies. Fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pouo, Didier Bleu à la réalisation avec Laurent Hérault aujourd'hui. Et demain, vos questions sur la drépanocytose. Transmission, traitement, l'importance de l'éducation thérapeutique pour éviter les complications de cette maladie génétique de l'hémoglobine. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. Et d'ici là, bien sûr, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque été.